RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Ravi d'être avec vous, soyez les bienvenus dans l'after, il est 22h02, vous êtes sur RMC, vous êtes sur RMC Sport également et on est très heureux d'être avec vous ce soir pour ce nouvel after. After du lundi avec les drôles de dames, donc avec nous ce soir, comme chaque lundi soir, Daniel Riolo. Salut Daniel.
Salut les amis.
Ça va Daniel?
Très bien.
Tout va bien?
Oui.
Oui. Ça a l'air.
Bonsoir.
Bonsoir Pierre Ducrot.
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir Pierre Ducrot.
Qui a fait péter la cravate ce soir Pierre.
C'est normal, Daniel. Avant il faisait une émission de télé.
Oui, c'est pas, alors c'est pas joli. Je veux dire, c'est vraiment pas pour vous que j'ai mis la cravate.
Hein, c'est pour
dire,
qui? Pour Thomas Tourelle qui était sur Breaking Sport tout à l'heure.
Exactement.
Voilà. Et ben on va réécouter quelques passages.
Non, ceci dit, c'est aussi pour vous.
C'est vrai?
Ouais.
Bah David Ortolari n'a fait aucun effort et c'est aussi pour nous au niveau des
Delta. Tu présentes?
Bah ouais, David Ortolari, bonsoir David.
Allô Freunde, salut messieurs.
T'as oublié qu'on faisait de la télé toi en fait?
Ouais, enfin c'est pas parce qu'on fait de la télé qu'on est obligé d'être forcément coincé, serré comme ça jusqu'ici.
Ah, tu veux dire que je suis coincé avec ma cravate?
Non, toi t'es très élégant.
Ah, d'accord, ok. Non, puis je me suis dit, David est élégant, que sûr.
Alors dans le toi, tu es très élégant.
Je savais.
À la place de Nico, je le prendrais très mal.
Tout ça parce que le
papier orange. À la place de Nico, je le prendrais mal.
Ça fait très Pays-Bas.
Et avec son hein, mais il est, regarde comme il est Montpellier.
Ah oui, bah ouais, alors
bleu,
ah, oui, tu sais pourquoi? Pedro Mendes.
Qui est pas rebasculé dans les clubs.
Qui est dans la liste des 23 des Portugais qui sont en train de battre l'Italie pour le moment 1-0.
Ne pas la chemise, on dirait qu'il tient une pizzeria à Villabray.
Qu'est-ce que t'as contre les pizzerias à Villabray?
Pizza à la morue.
Rien du tout.
Pizza bacalhau chez nous, la spécialité.
Voilà.
Le sommaire de cet after qui tombe à l'heure. Les amis crochets.
Je comprends pas ce jingle. J'ai
t'inquiète pas, on t'expliquera une autre fois.
Voilà, mais le jingle, ça, c'est, quand tu l'entends, normalement, c'est quand t'es en retard, non? Quand tes trains sont en retard, plutôt, non?
Oui, mais c'est parce que nous, on est toujours en retard.
Bon signe, ouais.
Dans le sommaire, c'est pour ça.
Ok, autant pour moi.
Voilà.
Il y a peut-être des auditeurs qui n'avaient pas compris comme moi.
Bah ils ont compris comme toi maintenant.
Voilà.
Les avis tranchés de Daniel Riolo et de Pierre Ducrot dans quelques instants, les questions de l'after, les avis tranchés des drôles de dames aussi dans quelques instants. On fera un tour d'Europe avec David Ortolari qui est là parce que dans quelques instants, mon cher David, tu vas analyser avec nous les déclarations de Thomas Tourelle qui était l'invité de Breaking Sport tout à l'heure. Et d'ailleurs mon Pierre, bah toi ton avis tranché, il concerne justement le Paris Saint-Germain. On va débuter cet after avec ton avis tranché Pierrot.
Mais moi si je suis coach de Lyon là aujourd'hui, je me bouffe les couilles.
Ça tombe bien, c'est des coachs du PSG.
Là. Alors ça, c'est transition pour l'avis tranché de tout à l'heure, petit teasing de Daniel Riolo. Ce sera dans quelques instants. C'était sympa là l'interview sur Breaking Sport avec Thomas Tourelle tout à l'heure.
C'était un vrai bon moment, honnêtement. Alors j'en ai pas vécu 10 000 des moments de télé avec des coachs, etc. Parce que j'ai une petite expérience. Moi, Daniel a dû en vivre beaucoup plus que moi. Mais honnêtement, moi, ça a duré une heure, un peu plus d'une heure, je crois. J'ai pas vu le temps passer. Il a été. Il y a une liberté d'expression et de ton, tu vois. Il dit ce qu'il pense. Ou ce qu'il a envie, alors bien sûr ce qu'il a envie de dire, hein, on est d'accord, il est loin d'être naïf, il est très intelligent, mais on a parlé tactique, il s'est levé, il a fait du tableau noir, t'as des mecs qui se seraient dit si je dis ça, est-ce que ça va pas être utilisé contre moi, est-ce que si lui il parle, il dit ce qu'il pense tactiquement sur ses relations humaines avec les joueurs, sur sa gestion plutôt humaine avec les joueurs, c'était aussi très intéressant. Il rentre quand même relativement bien dans le détail. Si tu l'arrêtes pas, il continue. En plus, c'est ça qui est formidable, c'est que je pense qu'on aurait pu faire trois heures d'émission. Alors mon avis tranché, c'est pas juste pour vous résumer l'interview. Pour ça, vous irez la revoir.
On aura des extraits dans quelques instants.
Il y aura des extraits, puis je pense qu'on pourra la revoir sur le site d'RMC, etc. Non, c'est pour demander. Alors aux dirigeants du Paris Saint-Germain, mais aussi à nous médias, peut-être aussi aux supporters du Paris Saint-Germain, d'être patients. Parce que j'ai plein de signaux positifs qui me viennent comme ça après cette interview d'une heure et ce moment passé avec lui. Mais j'ai aussi la sensation qu'il va falloir du temps pour réussir à faire ce qu'il veut faire. Pourquoi ? Sur le plan humain, je pense qu'il a des relais dans le groupe qui vont lui permettre assez rapidement de faire le tri entre la plupart de l'effectif qui va adhérer au discours Et puis c'est des petites brebis galeuses qui ne le feront pas et il s'en débarrassera. Je pense que ça, ça va être, c'est loin d'être facile à faire, hein, la gestion humaine, on le sait, mais je pense que pour ça, quand je dis dérouler dans le groupe, je pense à un Kimpembe, je pense à un Areola, je pense à un Silva, je pense à un Cavani, qui d'autre encore, peut-être bien un Neymar parce qu'il est assez malin avec lui et je pense qu'il a, il aborde la chose avec Neymar du bon côté. On verra si le futur me donne raison et lui donne raison surtout. Mais je pense qu'il a des joueurs qui vont adhérer. Et ça va lui permettre de rassembler la plupart des joueurs, parce que tu rassembles jamais tout le monde. Là où ça me pose un peu plus de difficultés et où là où je pense qu'il va falloir être patient, c'est pour sur le terrain sportivement avoir la matière pour avoir des résultats et du contenu. Le contenu amenant là ça va plaire à Daniel le résultat, je pense, avec ce genre d'entraîneur et ce genre de football pratiqué. On va en reparler après. Je vais pas le développer entièrement dans l'avis tranché, mais on va en reparler après. Il y a eu un mercato. Daniel avait fait un avis tranché là-dessus, qui a été loupé au milieu.
Alors on va
terrain.
Y revenir, ouais, là-dessus spécifiquement.
Voilà, mais c'est quand même le cœur de ce qui va être le plus difficile à gérer cette saison pour Thomas Tuchel. C'est le milieu de terrain pour moi. Il en a parlé. Il a parlé de Marquinhos qui est repositionné à ce poste-là. Il a parlé effectivement du mercato où ils ont couru après un 6, mais ils ont jamais réussi à l'avoir. Et il a dit très clairement que le 6 qu'il cherchait, c'était une vraie sentinelle, mec expérimenté, ou en tout cas, s'il est pas expérimenté, mec avec du caractère, qui tient le milieu, etc.
Mais tu serais pas sous le charme,
vu les joueurs qu'il a cités, lui, c'est exactement les joueurs qu'on a cités la dernière fois et qui évoluent dans les clubs prétendant la Ligue des Champions.
Et c'est ça. Exactement.
Busquets, Casemiro, Fernandinho.
Des statues.
Hein,
des statues. Moi, j'appelle ça une statue parce qu'au milieu, c'est voilà. le mec qui domine.
Donc, ça a été cité par Tuchel.
Exactement.
Donc, joueur que le PSG n'a pas, et on sait très bien ce qu'il va faire parce qu'il l'a dit clairement. T'étais à côté de lui. C'est Marquinhos.
Alors attends. Alors bouge pas. On va réécouter ce passage justement. On va d'abord écouter Tuchel justement.
Peux le passage, mais
Clairement
le 6 pour lui.
Ton avis, Daniel, toi.
Mais il a pas trop le choix en fait. Ouais.
Le 6 comme Casemiro, comme ceux qu'on a cités à ses yeux aujourd'hui, est celui qu'il va transformer.
Celui
comme
qui peut peut-être transformer en ce type de joueur, ouais, peut-être.
Mais vas-y, finis, s'il te plaît.
C'est lui qui va mettre là.
Non, mais je dis peut-être. Est-ce que Marquinhos va pouvoir devenir?
Oui, ça je sais rien.
Vas-y, finis ton avis,
Tuchel. C'est Marquinhos.
Juste pour finir, patient jusqu'en janvier. Si le PSG réalise un miracle et trouve ce mec-là en janvier, mais j'y crois pas parce que ça va être compliqué d'aller le chercher quelque part. Ou sinon, patient jusqu'à la saison prochaine. Je vois pas aujourd'hui.
Il n'y a pas de patience.
Alors c'est pour ça que je fais cet avis tranché, parce que j'ai l'impression que si on n'est pas patient du côté du Paris Saint-Germain, on ne verra jamais les bienfaits de du coaching et du management.
Là-dessus, je suis pas d'accord.
À un moment donné, peut-être que ça va.
Vas-y, Daniel. Pourquoi
ça va
pas d'accord,
d'être patient et de laisser un coach faire et bien faire.
Ouais, bon, déjà j'ai dit à maintes reprises à quel point je trouve ça effectivement plutôt bien que lui, tout le monde ait décidé que l'histoire était belle, alors qu'avant on l'avait pas décidé, par exemple pour Emery, notamment ni les joueurs et surtout pas les médias qui dès le début avaient décidé que ce serait de la merde. À chacune de ces tentatives,
t'as raison pour les médias.
Sur le côté, ça avait été.
T'as raison pour les médias. Après les joueurs, honnêtement, ça paraît être une différence.
Maintenant, oui. Enfin bon.
Pourquoi je sais pas. Est-ce qu'il est plus habile que le précédent
Tu sais que les joueurs sont extrêmement sensibles à ce qui se dit dans les médias.
Oui.
Les relais des joueurs sont très attentifs à ce qui se dit.
Oh, oui, je sais bien.
Il y a l'effet de nouveauté aussi.
Et ça, le public ne le sait peut-être pas assez.
Et d'ailleurs, ceux qui prennent plus attention, c'est ceux qui disent toujours.
C'est pour ça que j'insiste toujours sur l'élément communication dans ce métier aujourd'hui, qui, à mon sens, est largement aussi important que le schéma tactique que tu mets sur le terrain. La façon dont le joueur va adhérer à ce que tu dis dépend également de l'image que tu as, de l'image que tu renvoies et de ce que les joueurs entendent dans leur environnement. Si tu le répètes du matin au soir, si l'environnement, les joueurs, tout ce qui évolue autour d'eux, il n'y a pas que des lumières qui évoluent autour des joueurs, hein. S'ils entendent les anciens joueurs, les journalistes, machin, dire ce n'est, ça revient dans la tête du joueur que l'entraîneur est finalement
raison,
peut-être un tocard.
T'as raison, ça, voilà. C'est une part
de
ça, c'est
le public n'a pas l'air de comprendre le rôle exact de la com et de ce qui se passe dans les médias. Peu importe. On en revient donc à Tuchel. La patience, oui, mais l'effectif, ce sont les dirigeants qui l'ont construit avec lui. L'histoire du il faut être patient parce qu'ils ont pas trouvé le 6 en janvier et tout, c'est le PSG qui a merdé. Oui. Ils avaient des mois et des mois pour le trouver, ils ont jamais réussi à le trouver.
Je suis d'accord, c'est pas non plus pour qu'ils soient patients.
Mais moi je te dis pas d'en vouloir à Tuchel. Ouais. Je te dis le regard
qu'on doit... que t'es pas d'accord alors
non,
avec
le regard qu'on doit porter sur la gestion de ce club.
Ouais, mais lui il parle de Tuchel, Pierre.
C'est pas bon.
Non mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais logiquement ça devrait les amener justement à être patients avec leur coach puisqu'ils ont pas réussi à lui mettre dans les mains ce qu'il fallait pour effectivement faire quelque chose de plus que ce que le PSG a fait ces dernières années.
Pierre dit, faut être patient avec Tourelle, pas avec le Paris Saint-Germain. C'est pas pareil, même si ça se
alors, loin, dans mais... ce cas, il faudra, et, ouais, non, mais bien sûr. De toute façon, être patient, on le sait très bien. C'est attendre le huitième de finale.
Est-ce que lui peut être patient une saison à
l'épreuve? On le sait, ça joue là, la saison, elle démarre là.
Est-ce que sur un poste comme ça, tu parlais de statut, tu parles de joueur clé, le 6, à Dortmund, des statuts, il y en a eu, il y avait Sébastien Kehl, le capitaine, il y a eu Sven Bender, il y a eu Weigl peut-être dans un rôle peut-être un peu plus artiste qui touchait peut-être plus de ballons, mais des joueurs comme ça tu peux en trouver. Est-ce que Tourelle attendre les fêtes? Oui, ça bien sûr, parce que tu dois être un peu diplomate et tu dois aussi laisser le temps au club de faire les transferts éventuellement, mais est-ce qu'il va attendre une saison complète pour trouver un joueur comme ça?
Non, si ça pose problème, il va faire jouer Marquinhos à ce poste.
Bah, il va pas avoir le choix.
Il a dit Marquinhos a la bonne mentalité.
Il est parti pour un an.
Marquinhos,
comme ça.
Si on va les écouter. Va être en gros le mec accrocheur. C'est Marquinhos. Enfin, il l'a dit clairement
oui,
dans
oui,
l'interview.
Non, tout à fait.
C'est clair.
Lui, il passe un message parce que, bah, forcément, il est coach du Paris Saint-Germain. Il va passer un message
positif. Marquinhos n'est plus défenseur central.
Pour l'instant, Marquinhos, Daniel, il est peut-être voué à le devenir, mais pour l'instant, il ne l'est pas.
Alors, Tourelle est revenu sur la question du non-recrutement d'un milieu de terrain. Alors, face au départ de Lo Celso, Pastore et la fin carrière de Mota. Lorsqu'on demande à Tourelle s'il est satisfait de son premier mercato au Paris Saint-Germain, voici sa réponse.
Pas à 100%, pour le dire, pour être franc avec vous. Et puis ce n'est un secret de Paul Schinell que... qu'on était en recherche d'un numéro 6 et on cherchait un rayonnement, on cherchait à remplacer Thiago Motta, remplacer sa personnalité. Et puis pour un numéro 6 au PSG, tu cherches le talent, tu cherches une très grosse personnalité. On n'a pas réussi à le faire pendant ce mercato, malheureusement. Donc à la fin, on a un petit peu manqué de temps.
Voilà, et alors il y a la fameuse question de Marquinhos au poste de numéro 6. Là aussi, la question lui a été posée. Est-ce que c'est possible de voir Marquinhos au poste de numéro 6 au PSG cette saison? La réponse de Thomas Tuchel, c'était tout à l'heure dans Breaking Sport.
Peut-être, effectivement. Mais Marquinhos est très différent de Giovanni Lo Celso. Marquinhos a beaucoup des paramètres, des qualités qu'on cherche. Il est très rapide, il est fort dans sa tête. C'est un soutien au niveau du mental. Il a cette personnalité-là.
David, il avait fait des essais aussi à ce poste-là du côté de Dortmund. Hein.
Ouais, exactement. Mais là, justement, j'étais en train de me dire de repartir dans le vécu de Tourelle comme entraîneur, parce que mine de rien, c'est pas un vécu si vieux que ça encore. Mais il va vouloir. On l'a dit, ça va être une constante. Il va vouloir réinventer des choses. Pas forcément réinventer le football, ni un poste, ni une équipe, mais il va vouloir faire entrer des joueurs qui n'étaient pas forcément initialement formés pour ça, préparés pour ça, dans certaines cases, dans certains moules.
Ah, tu veux dire qu'il l'a fait partout où il est passé?
Oui, exactement, parce que ces entraîneurs-là qu'on appelle laptop trainers en Allemagne, c'est-à-dire ils sont là avec des idées, un corpus d'idées très large, brillant, super bon élève, etc., avec des idées fortes. En plus de ça, effectivement, et on le constate pour l'instant, j'espère que ça va durer, un bon contact avec nous, avec les joueurs, avec l'environnement. Ça, c'est bien quand tu as les deux, c'est super. Mais derrière, combien de joueurs vont être capables de modifier complètement leur profil? Marquinhos, moi je veux bien y croire, mais ça va pas se faire en 15 jours, hein. Donc
tu rejoins mon idée principale,
lui,
tu vas pas avoir du temps pour ça.
C'est un homme orgueilleux, c'est un homme mais orgueilleux dans le bon sens du terme, avec sa fierté, avec ses certitudes théoriques qui sont appliquées avec justesse pendant un temps dans les clubs où il est passé. Donc il va pas renoncer en 15 jours à installer un joueur quelque part. Ça va peut-être créer des incompréhensions avec les coéquipiers, avec le public aussi. Il faut s'attendre à ça. Je l'ai dit, je le répète, on verra ce que ça donne en pratique, semaine après semaine. C'est un entraîneur, ça va grincer par moments, ça va couiner peut-être à certains endroits du terrain, encore une fois avec les coéquipiers, avec le public, avec les médias. Il va chercher à imposer son style, ses méthodes, ses détails de jeu et d'entraînement, jusqu'à ce que ça casse éventuellement, ou jusqu'à ce que ça marche, parce qu'il y a des chances quand même que ça fonctionne, étant donné que c'est un entraîneur qui a déjà eu du succès à des niveaux élevés.
Après, que ça marche en Ligue 1, ce sera pas un problème. Maintenant, moi, j'aimerais revenir sur l'interview.
Si je peux revenir sur ce que David a dit, mais très brièvement, dans tout ce que tu dis, moi aussi, j'ai cette sensation-là, que c'est un entraîneur qui arrive avec beaucoup d'idées nouvelles, etc., et que
et que pour le faire passer, c'est pas forcément évident. Et c'est pour ça que je lui ai demandé. J'ai fait référence à l'interview que Daniel avait faite d'Unai Emery, où Unai Emery nous avait expliqué qu'au bout de 3 mois, il avait compris que ça ne passerait pas ses idées avec certains joueurs et qu'il était revenu en arrière et qu'il s'était adapté. Ça, je lui ai demandé si pour lui c'était possible de voir les choses comme ça. Sa réponse a été, alors peut-être que c'est un peu de langue de bois, ou en tout cas il a ménagé un peu la chèvre et le chou, mais sa réponse a été, moi ce que je veux, c'est que les joueurs adhèrent à mon discours, parce que sinon je n'obtiendrai rien d'eux, et pas de les obliger à faire quelque chose. Sinon, là oui, effectivement, il faut aussi que moi j'apprenne à m'adapter aux joueurs.
Donc il fait appel à une intelligence. Une intelligence de jeu, une intelligence de travail.
Daniel, tout le monde est capable. Donc l'interview, effectivement, beaucoup de moments très très intéressants, notamment dans le décryptage.
Dans les questions.
Mais justement, je vais y venir. Mais comme ce qui caractérise l'after, c'est d'être libre, même pour ce qui concerne notre propre maison.
Bien sûr.
En tout cas, pour ce qui me concerne, je suis comme ça et je pense que c'est ce qui fait avancer les choses. Il y a beaucoup de questions que j'aurais aimé poser et qui n'ont pas été posées.
Ah bah, alors, je te rejoins complètement, mais sauf qu'on a t'es tenu aussi un peu par le temps.
Non. Non, non.
Ah, je te jure que
t'as une contrainte de temps, Daniel.
Vous avez oublié des choses importantes. D'abord, au moment de parler.
Je vais te laisser dire. Je vais dire si on les a oubliées ou si elles étaient prévues et qu'on n'a vraiment pas pu les faire parce que, non, mais tu as vu le truc. Il dévite énormément.
À défaut d'avoir eu les réponses, genre, au moins les questions et ceux qui se les ont posées aussi pourront être derrière moi pour les poser. Puis un jour, on aura peut-être les réponses. Mais déjà, dans ce rôle du 6, Rabiot, il a un 6 sous la main.
Non, parce que comme donc, il décrit le numéro 6,
donc
c'est pas lui.
Un de plus qui n'arrivera pas à faire changer d'avis le capricieux Rabiot. Et enfin, et surtout.
Je pense même pas qu'il n'y arrivera pas, je pense qu'il essayera pas parce qu'il a pas envie.
Il essayera pas, oui.
Ouais, je pense qu'il a pas envie de le mettre là.
Dommage. Et surtout, il a beaucoup parlé de son idée de jeu. La possession. Il vous a fait des schémas sur l'écran, le machin et tout. Et qu'est-ce qu'il pense du fait que l'équipe qui est championne du monde joue à l'opposé de ses idées? Pourquoi vous lui avez pas demandé ça?
Alors moi,
qu'est-ce qu'il pense du fait que son idée de jeu est en retrait aujourd'hui dans le football?
Alors,
qu'en est-il de son idée de jeu?
Intéressant. Daniel, ils sont obligés de faire des choix de questions.
C'est très intéressant.
Ça que je dis, c'est là pour moi l'essentiel.
C'est très intéressant. C'est une question de fond.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, lui est un adepte de Guardiola, que j'adore aussi. Moi, ses idées de jeu, je les adore.
Il y a répondu en partie, je vais te dire.
Il y a un constat. C'est que Guardiola en Ligue des Champions avec City, il a pris une danse contre Klopp. Lui, il va croiser Klopp dans 2 semaines.
Ça, il l'entend.
Il joue plutôt un football
de con.
Qui est, on va dire, tendance en ce moment. Alors que le sien n'est plus vraiment tendance. Comment lui il réagit? Est-ce qu'il reste dogmatique avec cette idée-là? Il va faire bosser son équipe de cette façon-là. Mais comment il voit l'évolution du foot qui n'est pas dans son sens?
Alors moi je pense déjà que effectivement l'évolution du foot n'est peut-être pas dans son sens,
mais de savoir que t'en penses quelque chose, mais j'aurais aimé que lui.
Mais réponde. Alors je sais bien que ma réponse
est parce que tu peux être le 6 qu'on attend au PSG finalement.
je me suis proposé, c'est vrai qu'il y a pas eu trop de réactions.
Je t'ai vu. Donc qu'est-ce que t'en penses?
Je pense qu'il me prendra pas.
Non mais pas de ça de mes questions.
Alors je pense qu'effectivement il va peut-être dans un courant contraire à ce que tu appelles l'évolution du foot aujourd'hui. Je te rejoins, sauf que je pense qu'il a le caractère pour insister dans ce sens là et qui te dit qu'il n'arrivera pas?
Mais moi j'ai jamais dit qu'il arriverait pas. Je veux juste le débat. Je veux dire, aujourd'hui,
tu sais pourquoi
il est comme ça? Lui, dans tous les clubs où il passe, il a un très fort taux de possession. Ouais. Il base son jeu là-dessus sur les passes courtes.
Je vais te dire pourquoi. Je l'ai peut-être mal posé, mais je vais demander si lui il préférait travailler dans cette rigueur tactique et dans ces différents systèmes, etc. pour poser des problèmes à l'adversaire quand il n'a pas de ballon,
quand t'as dit ça.
Ou s'il prenait plus de plaisir à le faire pour travailler des systèmes différents, etc. quand il a le ballon. Sa réponse a été claire.
Aujourd'hui,
je prends beaucoup plus de plaisir quand j'ai le ballon.
Exactement.
Je pense que c'est une philosophie qu'il a, c'est
quand
une volonté.
J'ai entendu poser cette question, je me suis dit, putain, mais Pierre, avec les milliards de débats et d'engueulades qu'on s'est fait là-dessus,
tu voulais que je lui demande
est-ce que tu t'es fait chier quand t'as vu les bleus?
Ah non, je pensais que t'allais me dire.
Est-ce que tu trouves que c'est un beau champion du monde? Tu as l'entraîneur qui vient de prendre l'équipe phare.
C'est toujours beau, champion du monde. Qui vient de prendre
l'équipe phare. Mais j'aurais voulu qu'il le dise.
Ouais.
Il vient de prendre l'équipe phare du pays. Celle qui gagne les titres. Il est dans le pays des champions du monde. Est-ce qu'il peut s'inscrire? Est-ce qu'il est en phase avec ce qu'il a vu? Ou est-ce qu'il est à l'opposé de ça? Et est-ce que son idée est encore,
je pense que la réponse, on la connaît en partie,
sachant que toutes les équipes qui jouent de cette façon se heurtent à des murs aujourd'hui.
Voilà.
Ce qui est sûr, c'est il a forcément en tête un plan B, un plan C, différents plans de jeu, mais de là.
J'aurais aimé entendre le plan B. Plan C, je n'ai entendu que le plan A.
Oui, mais c'est pas un plan Z. C'est-à-dire que de là à révolutionner, à dénaturer le jeu qu'il a en tête et qu'il aime, je suis d'accord avec Pierre, ça n'arrivera pas.
Ça va être compliqué.
Messieurs, on va accueillir Damien qui nous a appelé au 32-16. Salut Damien, supporter du Paris Saint-Germain qui va revenir sur la vie tranchée de Pierre Ducrot qui veut laisser du temps à Thomas Tuchel. Bienvenue dans l'After, Damien.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à l'After et puis bonsoir à tous les auditeurs.
Salut Damien.
Bonsoir. Alors désolé, Damien, est-ce que t'es d'accord? Est-ce qu'il faut laisser du temps à Thomas Tuchel comme le suggère, comme l'appelle Pierre Ducrot?
Alors moi je veux bien laisser du temps à Thomas Tuchel comme j'ai laissé du temps à Unai Emery, comme j'ai laissé du temps à Laurent Blanc, mais à un moment donné le temps on en a plus beaucoup et à un moment donné il faut savoir choisir ses coachs. Alors moi malgré tout, j'ai vu de bonnes choses, notamment sa capacité à changer en cours de match, etc., qu'on m'avait vendu au courant d'été et que j'ai pu voir en action, et c'est vrai que c'est intéressant. Par contre, je reste sceptique malgré tout sur les gros matchs, sur la capacité à gérer le recrutement. On voit que le recrutement, c'est pas vraiment lui qui l'a géré, que ça a été le club, que le club l'a géré comme il l'a géré sur les 3-4 dernières années. C'est-à-dire que depuis qu'Ancelotti est parti et que Leonardo est parti, bah, il n'y a plus de vraie stratégie de recrutement. On voit qu'Adrien Rabiot arrive à un an du terme de son contrat et que s'il n'est pas prolongé, bah, comme on connaît la starlette qui est Rabiot, il va rien faire de la saison.
Il va être prolongé, Damien.
Bah, j'espère bien qu'il sera prolongé. Mais s'il ne l'est pas, ça risque d'être un vrai problème parce qu'en plus de ne pas avoir de milieu de terrain pour le remplacer, il ne va plus rien faire et il va être nul. Parce qu'on sait comment il fonctionne Rabiot. Et aujourd'hui, moi, pour moi, c'est un vrai point d'interrogation. On a cédé encore à tous ses caprices cet été.
Après, Damien, au niveau de rémunération auquel Rabiot va sûrement prolonger, j'imagine à peu près la rémunération. Je te promets que, alors, ce serait une mauvaise nouvelle parce que oui, c'est un titi parisien. Voilà, il y a tout ce côté-là. Mais honnêtement, tu peux trouver d'autres très bons milieux de terrain aussi bons que Rabiot au salaire où il sera.
Voilà, mais c'est pour ça que je suis très sceptique par rapport à Thomas Tuchel parce que il n'a pas encore montré tout ce qu'on pouvait attendre de lui. Et Daniel a été très gentil en disant que le seuil de vérité sera les huitièmes de finale de Ligue des Champions, mais encore faut-il qu'il se qualifie. Comme il a dit Daniel.
Je suis d'accord avec toi.
La phase de poule va être difficile.
Daniel, je suis d'accord. C'est vrai que par habitude, j'ai dit que l'heure de vérité, on sait à quel moment elle intervient pour le PSG. C'est vrai, Damien, tu as raison. Cette année, c'est un petit peu différent, tu as raison.
Ouais, et donc, du coup, pour moi, si par exemple, il sort pas des phases de poule de Ligue des Champions, eh ben, je suis désolé. Il faudra.
Mais s'il sort pas des phases de poule, mais on est déjà dans l'échec total.
Mais complètement. Et je suis d'accord.
Mais Pierre, c'est
un échec, oui, en termes de résultats, parce que t'es le PSG et que tu dois te qualifier.
Non, mais phase de poule, Pierre.
Oui, mais sauf que vous allez aborder ces phases de poule, messieurs, avec un milieu de terrain. Alors, qui va peut-être devenir un grand milieu de terrain à Marquinhos, mais qui pour l'instant ne l'est pas.
Mais on s'en fout!
Tu joues avec ça.
Tu es le PSG avec les moyens que tu as. Tu sors pas de cette poule, c'est un
échec. Parce qu'il y a des erreurs qui ont été faites ou des choses qui ont pas été faites cet été.
Pierre, je ne
te dis pas. Mais ce sera pas que la faute de Thomas Tuchel.
Tu lui mets un coup de pied au cul. Je te dis pas que tu peux pas continuer à lui faire confiance. Je te dis pas que tu poursuis pas une année de plus parce que ça peut prendre différemment quand il aura les joueurs qu'il veut. C'est pas ça que je te dis. Mais tu ne peux pas. Quand je disais les autres années,
ce sera un échec pour le Paris Saint-Germain. Tu veux dire oui pour le PSG? Oui.
Tu ne peux jamais dire.
On parlait de Thomas Tuchel.
C'est un échec si tu tombes en huitième, en demi, parce que de toute façon tu sais pas quel est ton parcours. Tu peux très bien arriver en demi sans avoir croisé personne et te faire taper en huitième si tu joues Real ou Barça. Si tu joues Real ou Barça. Après, les nuances à l'intérieur du discours, c'est quand tu joues le Real en huitième, c'est pas la honte de te faire taper comme l'année dernière. Sauf que l'attitude du match retour, elle est lamentable.
Elle était pas bonne.
Donc échec. Là, cette année, t'as une poule difficile. Que tu termines premier, deuxième devant Liverpool, ok. Mais si tu termines pas devant Naples, c'est pas Ludo Goretz.
Si tu parles d'un échec pour le club, oui.
Mais c'est un échec pour le club.
Oui,
mais ce sera un échec pour lui aussi.
Alors oui, dans un sens,
c'est un échec que tu veux vivre.
C'est ce que je voulais dire.
Comment parle échec du club? Mais pourquoi ce serait pas un échec du club?
Parce que moi, et déjà, j'ajouterais une
Il est employé du club,
c'est pas de sa faute au cuisinier. Pourtant, il est employé du club aussi. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être. Damien,
il a la même importance que Tuchel.
Non, je plaisante, bien sûr, bien entendu, tu l'auras compris.
Après, les pâtes, elles sont bonnes, hein.
Oui, puis la nutrition. Je sais pas, j'ai jamais goûté les pâtes du camp des loges. Non, ce que je voulais te dire, et Damien a mis le doigt dessus aussi en partie. Thomas Tuchel, quand il est arrivé, il n'a pas maîtrisé complètement le mercato, déjà. Et ça fait 2 mois et demi qu'il est là. Donc ce ne sera pas que son échec, parce que ça n'a pas été que lui.
Qui gère tout, surtout la première année. Ce sera un échec pour le club et ce sera un échec pour lui. Et pour les joueurs aussi. pour Mbappé, oui, pour Neymar, les stars,
forcément, qui sont beaucoup si tu plus passes pas les passes de poule, c'est un échec pour
le double que les mecs de Naples, tu sors pas, c'est
Damien,
un énorme échec.
Qui nous a appelé au 32-16 dans quelques instants, la vie tranchée de Daniel Riolo. Vous êtes très nombreux à réagir ce soir sur le hashtag RMC Live. Vous nous appelez au 32-16, David Daniel Riolo, qui concernera le week-end fou de l'Olympique Lyonnais. Vous êtes dans l'after avec Pierre Ducrot, Daniel Riolo, donc, et David Lortolari également. On vous dit à tout de suite.
RMC Football Show. L'After Foot, Nicolas Villas.
En compagnie de Pierre Ducrot, de Daniel Riolo, de David Lortolari également, qui est déjà parmi nous. Les drôles de dames seront là dans une demi-heure. David était déjà là parce qu'on est revenu sur l'entretien que vous avez suivi cet après-midi dans Breaking Sport. C'était la rentrée pour Breaking Sport sur RMC Sport. Et Thomas Tuchel était l'invité exceptionnel de cette première. Et la vie tranchée de Pierre Ducrot portait sur Thomas Tuchel. Pierre qui demande du temps à Thomas Tuchel. On va passer à la vie tranchée.
Pour Thomas Tuchel, pas à Thomas Tuchel.
Demande du temps. Pour Thomas Tuchel, ouais. Ouais, tu demandes
non,
pas du temps.
Je n'ai rien demandé.
Ouais, ouais, tu l'as demandé, c'est vrai. Bien vu, mon pote. Avis de tranché de Daniel Riolo.
Rien à voir. Le mec qui veut simuler, mais simule comme une salade. Ah,
ouais,
c'est pas grave.
Ouais, mais c'est compliqué. C'est compliqué de voler.
C'était qui?
Je me souviens pas à chaque fois
de toutes tes punchlines.
Des contextes. Je me demande si c'était pas.
C'est des cons.
C'était moi.
Je suis pas tout avec Pierre.
Ah si, il y avait Pierre dans l'histoire, tu te souviens pas non plus?
Non, c'était quoi? J'ai pas entendu.
Il allait te dire, et quand même, en un an,
il paraît que c'était sur un Lyonnais. Quand un barbeur me dit, c'était sur un Lyonnais.
Avec Pierre, il y a eu quelques enflammades, mine de rien, quand même.
Ah bah là, il y en a une.
C'est peut-être un de ceux qui me pousse le plus aux enflammades.
Oh non.
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal.
Pourtant, il est relax.
Jérôme, c'est un autre rapport.
C'est-à-dire?
C'est vrai qu'il, lui, il est super relax.
C'est quoi, Jérôme? Ah, ouais. T'aimes bien le titiller aussi, tu sais qu'il est nerveux, tu vas le chercher. Ouais, il y a peut-être un peu de ça aussi. Alors
Jérôme,
Daniel, ton avis tranché.
Rentre chez lui, il fait une boîte de Xanax avec sa femme avant de dormir.
Ouais, après nous, on doit essuyer les plâtres, c'est pas que ça me déplaise, mais. Ton avis tranché, il concerne l'Olympique Lyonnais. Alors, polémique autour de Bruno Genesio, cette altercation avec un supposé supporter lyonnais, Jean-Michel Aulas qui soutient son coach, qui a dénoncé l'équipe, qui s'explique alors plus ou moins cordialement sur les réseaux sociaux avec certains supporters de l'Olympique Lyonnais. Et pour toi, Daniel, Lyon est gagné par la folie.
Ah, écoute, le week-end, à un moment, tout le monde sait que quand Aulas est sur Twitter, ça m'amuse de m'immiscer, de regarder, de me marrer, et bon, ça a donné quand même quelques échanges que les gens qui suivent un peu connaissent. Mais alors là, je te promets, je ne savais plus quoi dire. J'étais mais bouche bée, enfin plutôt doigt bée, pouce bée. Je me disais mais attends,
pouce bée, c'est bon.
J'avais envie d'intervenir,
c'est bon.
Et je ne savais pas. J'étais là, je disais mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'était un week-end surréaliste.
Alors explique-nous, je me disais, contextualise.
Mais c'était réellement le président de l'Olympique Lyonnais, l'un des plus grands clubs français, qui est en train de s'écharper avec des supporters sur Twitter, avec des journalistes, avec des médias entiers, parce qu'il a fait, il sépare, hein, journalistes, médias, et en gros, c'est, les journalistes et les médias sont contre l'OL, les supporters, bon, parce que finalement, la moitié des supporters, s'ils s'écharpaient, donc on sait plus la proportion, c'est 10,
ouais,
c'est 20,
c'est, pas, ouais,
c'est 50%.
C'est pas forcément représentatif.
On sait pas vraiment. On n'arrive pas réellement à avoir, ouais. Moi, il y en a plein qui m'écrivent, ah, 90%, puis il y en a d'autres, ah, mais là, c'est des conneries, il y a que 20% qui comptaient. Bref, on sait pas trop, donc on va pas se prononcer sur un chiffre. Mais, déjà, mais, au nom de quoi on en voudrait à l'OL? Mais pourquoi donc? Pourquoi les journalistes, les médias, pourquoi moi? Pourquoi il y a dans la tête de Jean-Michel Aulas qu'on lui en veut quand on en veut à l'OL? Mais pourquoi? Mais qu'on me donne une bonne raison d'en vouloir à l'OL. Je comprends pas. Bon, ensuite, il y a les fameux supporters qui commencent quand même à beaucoup gronder, non seulement face aux prestations de l'OL, mais également face aux prestations de l'entraîneur. Et c'est nouveau maintenant, depuis un an et demi, deux ans, face au président intouchable. Là, ça commence quand même un petit peu.
Sa communication, notamment d'ailleurs, puisqu'on en parle.
Ça, ses interventions.
Pas que ça, ses interventions, son travail aussi, parce que le coup de je prends deux mondialistes et il y a personne qui arrive et puis je sors des fausses excuses et puis le directeur sportif qui devait être dans l'avion et qui a jamais été dans l'avion, Juninho, promesse et compagnie. Enfin bref, il y en a quand même. C'est pas tous des gogos. Les supporters de l'OL, il y en a un paquet qui commencent à en avoir un petit peu marre d'avaler toutes ces couleuvres. T'enchaînes avec, enfin plutôt. Ce week-end-là enchaînait avec l'affaire Genesio. Affaire Genesio, quand même, qui fait une page dans l'équipe. Il a fallu enquêter
pour démontrer que c'était pas une altercation avec un supporter, mais avec un mec à l'intérieur d'un resto qui voulait prendre une photo. Là, je fais pause parce que il y a des mecs qui m'ont interpellé. Ouais, vous avez dit que c'était des supporters, bande de salopards. C'est pas des supporters, vous avez menti. J'ai dit, oh, oh, on a dit que c'était des mecs encartés dans des assos.
Déjà, on a dit que c'était qu'un mec.
Déjà, un mec qui veut prendre une photo.
Déjà, si tu prends une photo avec Bruno Genesio, au minimum,
tu es sympathisant. Voilà, OL, sympathie, oui. Au minimum.
Tu
donc
connais
déjà,
quoi,
ça veut dire que dans l'environnement de ta ville, il y a des mecs qui te demandent de faire des photos, mais avec qui ça dérape? Parce que le mec, quand même, il a, à mon sens, une phrase de trop, qui se dit pas, rapport à sa fille. Bon, ouais. Genesio, il avait peut-être marre de faire des photos, au bout d'un moment, peut-être,
ouais, en puis il était 4 heures du matin, donc.
Il a peut-être pas envie d'être importuné par un mec qui raconte n'importe quoi quand t'es en famille.
Voilà, en même temps, il fait un peu ce qu'il veut. Mais ça se termine par une vidéo où le mec poursuit un gars dans la rue, quand il y a une bataille de camionneurs. Mais attends, mais ce club est en train de vriller complet. Avant, il y avait toujours un mec qui, je reprends, c'est son expression. Un jour, il me l'a dit il y a très longtemps. C'est toujours moi qui a porté la culotte dans ce club. Et là, il y a plus de bretelles, il y a plus de ceinture, le pantalon, il est aux chevilles là, et il prend des coups de martinet là. Faut immédiatement arrêter cette folie complète parce que l'entraîneur est sous pression, il en peut plus. Et s'il est sous pression à ce point. Et si ça se passe mal, souvent avec les entraîneurs au club, où il y a des insultes, des affichages, machin, c'est aussi parce que le président, il met beaucoup du sien. Mais alors là, maintenant, on a un président qui peut passer un week-end et s'écharper avec des gens sur Twitter. Voilà, je dis, il est parti bientôt pour présider le carnaval de Rio, là. C'est n'importe quoi. Donc, je suis assez inquiet sur la situation de ce club, qui est pour moi en pleine folie.
Alors, supporter de l'OL, on vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio. Ton avis là-dessus, toi, Pierre, également. C'est vrai qu'on est quand même en trêve internationale. On est censé parler de l'équipe de France. Et il y a eu cette affaire qui a fait la une de la presse. On a beaucoup parlé.
La seule chose, Genesio, je reviendrai pas dessus parce que je pense que tu peux effectivement mal réagir quand t'es importuné par un mec, quand t'es en famille, etc. J'ai réfléchi parce que tu vois, quand on s'écharpe ou quand on échange, Daniel, après, je réfléchis quand même. Est-ce que j'avais raison, est-ce que j'avais tort, machin. T'as raison, la com a été très mauvaise, enfin, inexistante et donc très mauvaise derrière. Moi, la seule chose sur laquelle je pourrais rebondir là-dessus, c'est effectivement les interventions sur Twitter de son président. Enfin, tout le monde, ça saute aux yeux de tout le monde que les propres supporters du club, en tout cas la plupart, et tous ceux qui sont qui aiment le foot et qui sont attentifs à ce qui se passe dans le foot, dans le paysage français. Ça devient effectivement ridicule, quoi, ces interventions sur Twitter. C'est juste ridicule, effectivement. Donc, quoi faire, je sais pas, parce que je suppose que personne ne... Enfin, beaucoup ont dû lui faire comprendre que c'était ridicule, mais il ne change pas. Bah, c'est qu'il a envie de le faire et qu'il va continuer à le faire. Je vois pas Jean-Michel Aulas changer ça, puisque effectivement, il a passé encore un week-end à le faire, apparemment. Donc,
David, qui est le Jean-Michel Aulas allemand?
Ah, des...
C'est comment les présidents là-bas, qui tweetent là-bas? C'est un mec comme ça qui est un peu un Dolorentis, tu vois, un gars qui a des déclins un peu fracassants.
Il n'y a pas trop ça dans le paysage.
Non, mais même en France, il y a des mecs qui s'écharpent.
Non, Twitter, c'est
quoi? Mais alors après, même sans s'écharper. Par les voies traditionnelles, c'est toujours le... Mais
oui,
c'est-à-dire, on parle souvent de Neus, de Roménigue, du président Ratzke. Mais il y en a beaucoup.
Non, mais là, t'imagines, moi, à un moment, je regardais ça, je l'imaginais dans son canapé. Mais il va vraiment passer la journée à faire ça? Mais c'est dingue.
Tu sais quoi, réfléchissons, est-ce qu'en France, il y en a un autre qui fait ça?
Mais personne, voyons.
Même sans s'écharper, hein, mais qui communique sur Twitter.
Oui, Jacques Henriero le fait, par exemple. Il communique sur Twitter. Non, mais il communique, j'entends.
Non, quand j'entends, c'est ciblé, c'est bien. Non, mais pas comme ça.
Mais il n'y en a pas beaucoup sur Twitter, hein, au final, quand tu regardes des présidents.
Mais même chez toi, là, où la moitié des clubs, c'est une situation de taré, là, t'as des mecs qui font ça?
Ouais, ils font bien pire, même. Mais c'est fait pire parce qu'en fait, souvent, on leur donne la télé, ils vont sur les plateaux télé, ils font des débats, puis ils parlent de terrorisme, ils comparent ça à la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est là la campagne. On y reviendra tout à l'heure, mais. Non, je te jure.
C'est un mauvais exemple.
Ouais. La campagne, ouais,
mais
la campagne présidentielle du Sporting.
Sur Twitter, c'est sympa, c'est quand ils sont sur
un plateau
télé.
Non, ils font ça à la télé, gars, c'est mieux.
Sur un plateau
télé,
c'est pas mal.
Donc, t'es invité. Alors, attends, je te dis une connerie, Daniel.
Mais l'autre, il est chez lui. Il pense à autre chose, non?
Daniel. Le président du Sporting qui a été destitué, Bruno de Carvalho, il était sur Facebook, il a fait des posts, des trucs. Il prenait une photo d'un dirigeant du Benfica qui ressemble à Mister Burns.
C'est un bon exemple pour l'OL. C'est pas possible pour celui qui pendant longtemps a été surnommé le meilleur de nos présidents.
Il l'a été.
Ça remonte à très loin.
On va prendre l'avis de supporters lyonnais.
Là, il est plus très frais là. Franchement.
On va prendre l'avis de supporters lyonnais. On va accueillir Romain, supporter de l'OL, qui nous a appelé au 32-16. Bienvenue dans l'After, Romain.
Bonsoir, messieurs. Salut, bonsoir Romain.
Alors Romain, on vient, tu viens d'entendre l'avis tranché de Daniel.
Moi j'adorerais qu'il y ait
des
supporters de l'OL
qui défendent Jean-Michel Aulas
en désaccord avec moi, qui me disent,
qui t'explique que c'est normal.
Voilà.
Je suis pas du tout en désaccord avec toi, Daniel. Moi, ça fait quelques années et je l'ai souvent dit quand je suis passé sur votre antenne, parce qu'il y en a eu des débats sur Jean-Michel Aulas sur votre antenne. C'est gravissime à un moment donné. La communication de Jean-Michel Aulas, on la connaît depuis des années et des années, c'est une catastrophe. En dehors de ça, moi je suis supporter lyonnais, je suis lyonnais, je suis né à Lyon, je suis venu habiter sur la région parisienne il y a quelques années, et c'est là où on voit la différence en fait, que ne doit pas se rendre compte Jean-Michel Aulas, parce qu'il est à Lyon, il est avec ses supporters, tout se passe bien, mais quand on arrive et qu'on rencontre des gens et qu'on commence à discuter ballon parce que on est passionné de foot et que la question fatidique arrive, tu supportes qui, et que tu dis je supporte l'Olympique Lyonnais, et qu'on te regarde et qu'on dit ah, ce club de merde. Et pourquoi ce club de merde? Ah, mais parce que Jean-Michel Aulas. Et voilà, la phrase elle est dite en fait. C'est que les gens détestent pas Lyon, détestent pas forcément le club, mais détestent le président. Et je peux pas leur en vouloir.
Alors qu'avant, même ceux qui n'aimaient pas Lyon respectaient l'OL et respectaient leur président.
Tout à fait, parce que effectivement, il y avait moins de sorties médiatiques, parce qu'il y avait des titres aussi, parce que ils arrivaient à dénicher des joueurs, et effectivement, il y avait un certain respect pour ce club. Parce que effectivement, il y avait Jean-Michel Aulas qui avait réussi à sortir Lyon de la Ligue 2 et l'emmener là où il était, de faire les 7 titres de champion de France d'affilée. Mais depuis qu'il y a eu Twitter, depuis, je sais pas quel moment il a dégoupillé cet homme-là, parce qu'à un moment donné, moi j'appelle ça dégoupiller. Moi je suis choqué qu'il y ait personne au niveau du club, au niveau de la communication, qui lui dise, à un moment donné,
personne ne peut lui dire.
Mais il faudrait que quelqu'un lui dise. Il faudrait. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait aussi qu'il écoute ses supporters, et pas qu'à Lyon, comme je viens de le dire, mais dans les autres régions de France. Nous, les gens, quand on parle de foot et qu'on dit qu'on est supporter lyonnais, eh ben, ils nous cataloguent tout de suite en disant, voilà, vous êtes, c'est un club de merde parce que Jean-Michel Aulas. On a beau leur demander, mais pourquoi? Ah non, mais moi, quand ils disent, mais c'est pas les joueurs. Bah, c'est quoi? Ah ben, c'est pas l'entraîneur, c'est pas le club, c'est le président.
Alors Daniel, t'as lancé l'appel aux supporters lyonnais. Si vous êtes supporter de l'OL, que vous avez envie de défendre Jean-Michel Aulas, on vous attend aussi, qu'on nous accuse pas encore de faire du Aulas bashing. Merci en tout cas Romain de nous avoir appelé au 32-16. Je vous lis deux réactions, une sur le hashtag RMC Live.
Excuse-moi de te couper, j'ai été conciliant, j'ai même pas parlé du communiqué où il dit que les problèmes de l'OL c'est lié au PSG.
Oui, j'ai vu ça.
Là, alors là, on nage en plein délire, mais alors complet. Quoi.
C'était quoi après l'événement?
On n'est même plus à la théorie du complot.
On a Sylvain, un message sympa sur l'application Direct Studio. Sylvain qui habite en Virginie, aux États-Unis, qui nous dit fidèle de l'After. Je vous écoute généralement en podcast. Je vais écouter cette émission ce soir en rentrant du boulot. Il a vu le programme de l'After avant de partir au taf. Sylvain, parce qu'il nous dit, il est 22h39 chez vous. Daniel doit être en train de gueuler. Je suis sûrement d'accord avec Daniel. Eh ben écoute, bon podcast à toi, mon cher Sylvain. Et autre petit message sympa de Damien qui est au volant et qui dit, le remède anti-somnolence au volant, l'after foot sur RMC, impossible de s'endormir avec toutes ces prises de bec. Eh ben bref, sois présent sur la route, ouais. Mon Damien.
Et puis arrête de conduire à minuit, du coup.
Supporter de l'OL.
Sans tweeter.
Venez défendre l'As au 32-16. On vous attend au standard, bien entendu, avec Daniel Riolo, Pierre Ducrot, David
Camionneurs. Je sais pas pourquoi j'ai imaginé qu'il y avait
des camionneurs. Par contre, tous les camionneurs appellent. Le 32-16 est en train de bouillir. Daniel, il t'attend tous devant.
Après dans la rue.
À tout de suite pour la suite de l'after.
RMC Football Show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Pierre Ducrot, de Daniel Riolo, David Lortolari est avec nous, il est en train de s'échauffer. David, dans 13 minutes, les drôles de dames seront avec nous dans l'after. On a fait la vie tranchée de Pierre sur Thomas Tuchel, la vie tranchée de Daniel Riolo sur le week-end fou de l'Olympique Lyonnais et sur Jean-Michel Aulas. On a lancé un appel aux supporters de l'OL pour venir défendre Jean-Michel Aulas dans l'after. On vous attend encore. En attendant, les questions de l'after. On va parler un peu de l'équipe de France quand même, parce qu'hier la France a battu les Pays-Bas 2-1. Au coup d'envoi du match, Giroud ne marquait plus depuis 733 minutes. En bleu, il a planté le but de la victoire hier face aux Néerlandais. Giroud cette saison, finalement, il est plus efficace et il a plus joué surtout avec l'équipe de France qu'avec Chelsea. 155 minutes en bleu, 69 avec Chelsea. Une passe D avec les Blues cette saison, mais pas de but. buts et un but et pas de passe D avec l'équipe de France en revanche. Alors Giroud est toujours là dans le 11. Il est le symbole d'une équipe de France qui change peu finalement. Cette équipe manque-t-elle de changement justement? Est-ce que vous trouvez qu'elle est inamovible quelque part? Giroud, c'est un peu le symbole de ça finalement.
C'est-à-dire que quand tu restes sur un tel succès, que tu as autant d'automatisme, que forcément tu es gonflé de confiance. Oui, je pense que pour l'instant, elle est inamovible. Tu veux dire sur les mecs qui sont dedans, c'est ça hein, que tu voulais dire.
Oui, enfin, oui. Même dans le schéma d'ailleurs. Hein, même s'il a un peu changé.
L'un va avec l'autre.
Ouais.
L'un va avec l'autre.
Ah bah, à partir du moment
les hommes maintenant,
un mec,
ils ont trouvé le mode de fonctionnement, qui est remplaçant, la hiérarchie elle est établie. Quand t'es champion du monde comme ça, c'est vachement compliqué d'aller bouger les choses.
Parce qu'il y a toujours un sauf ouais. Que ta prochaine échéance, c'est pas la National League, c'est dans 2 ans.
Oui,
bah, et on en a parlé hier.
Dans les deux prochaines années, pour moi, c'est inamovible.
Donc ça veut dire que
sauf Giroud qui vieillit.
Ouais, mais donc si tu joues, alors voilà, on y arrive.
Donc c'est amovible.
Ça veut dire qu'un penses qu'on peut aller avec Giroud en 2020, c'est-à-dire un Giroud qui aura 34 ans.
Quel âge il avait closé en 2014?
J'ai rien contre Giroud. Hein,
t'es capable
au contraire.
De te souvenir
32,
de ça
32, 33,
ouais, mais dans le profil, dans le boulot qu'il fait, dans la débauche d'énergie qu'il a.
Bah, tu sais, s'il fait que ça, vu qu'il joue plus en club.
Ouais, mais tu sais très bien, quand tu joues pas, c'est encore plus dur de te mettre au niveau.
Moi, j'ai
du mal à croire qu'on ne puisse pas anticiper pendant les 2 ans qui vont arriver, potentiellement, une équipe de France sans Giroud, je suis désolé. Et qui dit une équipe de France sans Giroud, dit une équipe de France différente, parce que pour l'instant, t'as pas de profil identique, et donc tu vas changer, tu vas mettre un Mbappé en pointe, ça va changer forcément tes joueurs du milieu de terrain aussi, enfin, ça implique pas mal de choses.
Alors, je pose la question, différemment. Est-ce que justement, cette question Giroud qui se posera, donc, l'âge aidant, ou plutôt n'aidant pas, est-ce qu'on doit se la poser maintenant? Est-ce que Didier Deschamps doit se poser la question dès maintenant? En plus, il joue peu, on a vu les stats, il joue quand même pas beaucoup à Chelsea.
Est-ce que tu dois anticiper et préparer ça pendant 2 ans, quitte à te priver d'un Giroud qui pour l'instant est encore opérationnel?
C'est la question.
C'est dur, parce que tu t'as un système, comme le dit Daniel, qui marche très bien, qu'on aime ou qu'on aime pas, mais qui
donc
marche
Giroud
très bien.
Giroud sera dispo, il va jouer.
Tu prends la question,
la question qui va se poser, c'est si un jour il est pas là.
Ça veut dire qu'on peut imaginer peut-être que Giroud.
Quoi ce bruit de camion?
Alors c'est censé être une alarme. Hein. Merci beaucoup.
Le temps.
C'est les fameux camionneurs dont passait Daniel tout à l'heure. Non, c'est pas une question de temps. On a lancé un appel aux supporters de l'OL pour venir défendre Jean-Michel Aulas en direct dans l'after. Karim est en direct avec nous. Salut Karim.
Salut. Bonsoir l'équipe.
Bienvenue
bonsoir,
Karim.
Salut Karim.
Bonsoir.
Alors Karim, t'as entendu l'avis tranché de Daniel Riolo il y a quelques instants?
Ah, j'ai entendu. J'entends tous les soirs l'avis de Daniel Riolo. Tous les soirs.
Et alors,
il y a des fois, franchement, la plupart, je suis pas d'accord avec lui. Hein. Il est toujours en train de défoncer Jean-Michel Aulas. Quoi qu'il fasse, c'est le mauvais président. Ça fait 30 ans qu'il est au club. Certes, il y a des trucs peut-être qu'il les fait pas bien, je vais pas dire. Mais sur Twitter, comme là, tout à l'heure, il disait sur Twitter. Mais après, on sait pas, il répond à des gars, mais on sait pas si c'est un vrai supporter lyonnais. Comment il peut savoir si c'est un supporter lyonnais?
Ouais, mais Karim, est-ce qu'il doit se baisser?
Peu importe, il va pas s'amuser à des bagarres de boue sur Twitter quand même.
Est-ce qu'il doit
se baisser
lui en tant que président à répondre à un pseudo supporter ou à un supporteur tout court?
Bah, il lui répond. Après, si le pseudo supporter.
Non, ma question, est-ce que c'est pour toi? Est-ce qu'il doit le faire? Est-ce qu'il doit le faire pour toi?
Pour moi, c'est la génération de maintenant, c'est comme ça, c'est sur Twitter, sur Messenger, sur plein de trucs, et c'est comme ça, sur Facebook, il va faire quoi? Il dit rien de mal, on lui pose une question, comme là. Et il répond. Après, si le gars derrière il dérape, il va pas se laisser aussi faire. Il va pas se taire comme l'affaire Genesio. Le mec il veut faire une photo. Genesio il a bien voulu. Après, si le mec il dérape, Genesio il va pas se taire. C'est un être humain comme tout le monde, comme Daniel Riolo, comme moi, comme vous. À un moment après c'est bon.
À la différence près, je pense que tu, dans une situation réelle, effectivement, dans la vie de tous les jours, comme il est arrivé à Genesio, effectivement, là, tu peux pas l'éviter, le conflit, parce que il vient à toi. Je pense que dans sa position de président de club et un des plus grands clubs français, il doit pas se rabaisser à répondre sur Twitter. C'est pas son rôle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas lui de faire ça. Il est président du club. Il a d'autres choses à faire.
C'est le président du club, c'est lui qui doit ramener qui recrute et tout ça. Là, il a dit
non, dans la communication d'un club, c'est pas au président d'aller sur Twitter se clasher avec des supporters.
Il est comme ça, ça fait combien de temps qu'il est comme ça?
Il perd en crédibilité, malheureusement.
Il même s'il a crédibilité, il doit s'occuper du fond. Il doit s'occuper du club, il doit s'occuper que le club ait une meilleure image. Et le but de l'OL, c'est pas de devenir l'ennemi de l'OM, l'ennemi du PSG, l'ennemi de Saint-Etienne. Pendant des années, ce gars-là a été extrêmement respecté par tout le monde. Ce club était devenu crédible au niveau européen. Force est de constater, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, Karim, que le club est en recul sur tous les plans. Le club est en recul.
Pas du tout.
Bah le club n'est pas en recul alors.
Il n'est pas en recul. Pourquoi il est en recul de quoi?
Bah parce que dans les années 2000, t'étais un acteur important Ligue des Champions. Maintenant t'es que dalle.
Mais je suis pas que dalle. Eh ben on a eu un creux. Tous les clubs. Et Real de Madrid, on les a sortis en poule ou en huitième. Pendant combien de temps le Real de Madrid il sortait pas des huitièmes? C'est le plus grand club français. Là vous prenez
si tu considères qu'effectivement le Real entre 2002 et 2010 effectivement a connu des difficultés, et si Lyon doit être mis en parallèle avec cette situation là, alors dans ces cas là tu as raison.
Non, je dis pas que c'est en comparaison, mais à un moment, nous pendant les années 2000, c'est nous on était les plus forts. Maintenant il y a un moment ça passe, après ça.
Mais attends, excuse-moi, Karim. L'histoire du trou. On va dire que tu as raison. Les clubs peuvent avoir des moments où ça va moins bien. Mais tu sais, quand le Real cette période-là, on va faire comparaison Real et Lyon. On oublie que le Real a gagné plein de Ligue des Champions. C'est pas grave. On va vraiment faire gestion. Quand le Real a connu cette triste période, sache une chose. C'est qu'ils ont eu un président qui les a mis dedans bien comme il faut. D'abord, Ramon...
Calderon.
Voilà. Et ensuite, à un moment également, Florentino Pérez a pris beaucoup de mauvaises décisions. Et lui-même avait été viré. L'autre lui avait succédé, c'était pas mieux. Et ensuite, il est revenu et il a pris de meilleures décisions. Donc, c'est toujours le fruit d'une bonne ou d'une mauvaise gestion, de bon ou de mauvaise gestion de la part de président. Ça arrive au Bayern, ça arrive à tout le monde, mais ça n'est jamais, comme tu dis toi, une sorte de fatalité. Ah, mais tous les grands clubs ont des années de trous. Oui, si on s'arrête à ça, t'as raison, on va être d'accord, mais il faut expliquer pourquoi. Et quand t'expliques pourquoi, t'es bien obligé de dire que la période actuelle, et donc depuis 2010 maintenant, elle est mauvaise. Parce que votre président gère mal le club. Je suis désolé, c'est mon avis.
On remercie Karim
Real, dans les années pas bien, c'est parce qu'il y avait une mauvaise gestion.
On remercie Karim qui nous a appelé au 3216 et Nico sur l'application Direct Studio.
J'aurais bien aimé qu'il me dise si t'es un peu d'accord ou pas.
22:55. Bon, voilà. On a Nico qui nous dit sur l'application Direct Studio, en tant que supporter lyonnais, j'ai la solution pour Jean-Michel Aulas, lui filer un 33-10. Voilà. Pas de 4G, pas de Twitter. Pas de bon comme idée. Ça peut fonctionner. Merci Karim en tout cas. Nous on revient dans quelques instants avec les drôles de dames. On vous attend au 3216 pour y revenir. Pas mal de petites surprises également dans quelques instants avec Daniel Riolo, Pierre Ducrot. Et David Lorto qui est déjà prêt. À tout de suite.
RMC Football Show, l'After Foot.